Le Corse et l'Auvergnat.
Jérémy Gallon.
Romain Marcilli.
Pour ce 40e épisode, nous allons échanger sur des thèmes qui nous sont très chers. L'Europe, l'environnement, la diplomatie et même le sport. Mais nous aurons le plaisir de le faire aujourd'hui avec un invité, Michel Barnier, qui a occupé les plus hautes fonctions au niveau local, national et européen et a été un acteur majeur sur tous ces enjeux. Michel Barnier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le Corse et l'Auvergnat.
Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Le Corse, l'Auvergnat et le Savoyard.
Bonjour Michel Barnier. Vous avez un très long parcours politique. Vous avez été élu pour la première fois au suffrage universel il y a 50 ans, dans ce beau mandat de conseiller général. Vous avez été plusieurs fois ministre de l'Environnement, de l'Agriculture notamment, président pendant 17 ans de votre département, donc la Savoie. Vous avez été député pendant 25 ans, sénateur, coprésident du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville 1992 avec Jean-Claude Killy. Et pourtant, c'est à la question européenne à laquelle votre image est probablement aujourd'hui le plus liée comme commissaire européen et bien sûr négociateur du Brexit. Nous commencerons cette discussion par une question aussi courte que personnelle. Dans lequel de ces mandats et fonctions avez-vous eu le plus de satisfaction? Dans lequel vous êtes-vous senti le plus utile à vos idées et valeurs politiques?
J'ai toujours eu le sentiment, en tout cas recherché, le sentiment de l'utilité. C'est ça la politique ou l'action politique. Alors ces mandats sont différentes natures, surtout de différentes durées. Et la durée est importante en politique. Est-ce qu'on a le temps d'évaluer la situation quand on arrive, avec des idées qu'il vaut mieux avoir avant d'arriver? Est-ce qu'on a le temps de les lancer, trouver les bons acteurs qui travaillent avec vous et de les voir se réaliser? À coup sûr, ce sentiment d'utilité avec l'objectif de voir se réaliser ce à quoi on croit, c'est dans un mandat local qu'on le voit le mieux. Et à coup sûr, la présidence du Conseil général, aujourd'hui, on dit le conseil départemental de la Savoie, que j'ai eu l'honneur d'assumer pendant 17 ans. C'était le temps suffisant, assez long en effet, pour avoir des idées, parfois de grandes idées, de peu plus d'idées, pour les voir se réaliser et les évaluer. La plus grande idée que nous avons eue, je dis nous parce que c'est pas une idée que j'ai eue tout seul, était celle des Jeux Olympiques. Et ça, c'est un projet absolument formidable parce qu'il est complet. Il y a le territoire sur lequel vous bâtissez le projet, les hommes et les femmes qui s'engagent avec vous, les dimensions financières, les grands équipements, le sport, les médias, le marketing, la diplomatie. Tout est là dans les Jeux Olympiques. C'est pour ça que je suis très heureux que la France ait à nouveau eu l'ambition d'organiser cette fois-ci des Jeux d'été l'année prochaine. Et je pense que ce seront de grands Jeux.
Lorsque vous étiez ministre délégué aux Affaires européennes entre 1995 et 1997, vous avez eu à négocier le traité d'Amsterdam. Mais vous aviez aussi deux priorités qui vous tenait particulièrement à cœur. La première, c'était l'explication de l'Europe à nos concitoyens. La seconde, c'était le renforcement de la présence de la France en Europe centrale et orientale, alors même que les grands élargissements de 2004 n'avaient pas encore eu lieu. 25 ans plus tard, l'Europe a surmonté bien des crises, elle joue un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne de chaque Français, et elle tente de s'affirmer non pas simplement en tant que puissance régulatrice, mais aussi en tant qu'acteur géopolitique. Pourtant, le lien qui unit l'Union européenne à nombre de nos concitoyens semble aujourd'hui toujours distant. Beaucoup ne la comprennent pas, elle leur paraît éloignée, étrangère, désincarnée. Nombre de Français réalisent que l'on ne peut peser dans le monde actuel qu'à travers l'Europe, mais cette Union européenne telle qu'elle est leur semble manquer de souffle démocratique. Et alors que le centre de gravité de l'Europe bascule de plus en plus à l'Est, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, nous avons souvent l'impression que la France, en particulier au cours des dernières années, a peiné à comprendre et anticiper les dynamiques à l'Est de l'Europe, a souvent échoué à bâtir des coalitions avec les pays d'Europe centrale et orientale, tout cela étant évidemment un handicap majeur, alors même que Paris veut jouer un rôle de leadership sur le plan européen. La question est donc la suivante. Si je reprends les deux priorités que, jeune ministre délégué aux Affaires européennes, vous vous étiez fixé, où avons-nous échoué et que devrions-nous désormais faire différemment?
La question de l'Europe, ou du fossé qui existe entre les citoyens et les institutions européennes, il n'est pas seulement lié à la question de la communication. C'est trop facile de dire ça. À coup sûr, il y a un problème de démocratie européenne, de débat avec les citoyens. C'est pas facile d'animer une démocratie européenne dans une circonscription de 500 millions de citoyens et sur le territoire d'un continent entier. Mais il y a toujours des progrès à faire en utilisant, comme nous le faisons, des moyens modernes de communication, Internet, des consultations. Je n'ai jamais pensé que tout devait tomber d'en haut. que la communication et le débat démocratique européen devaient être relayés dans chaque pays par des ministres plus courageux qui assument ce qu'ils font à Bruxelles au lieu de raser les murs, par des chefs d'État qui font la pédagogie et du monde et de l'Europe, par des députés européens qui sont sur le terrain et pas seulement à Bruxelles ou à Strasbourg, mais aussi par d'autres acteurs, les associations, les organisations non gouvernementales, les églises, les collectivités territoriales. Chacun a un mot à dire, chacun a quelque chose à dire et à apporter sur le débat européen. C'était ça l'idée du dialogue national pour l'Europe que j'avais lancé en 95, malgré les réserves ou les réticences du ministre de l'époque des Affaires étrangères ou d'autres. Quelqu'un m'a même dit « Pourquoi tu vas parler de l'Europe avec les gens ? L'Europe, c'est trop compliqué pour qu'on en parle avec les gens. » Et donc, cette idée qu'il y a des gens qui savent, qui ont la science infuse, qui ont toujours raison, et puis le peuple qui doit suivre, cette idée, elle est fausse. Donc j'avais l'idée d'aller dialoguer donc, toutes les semaines. Nous avions monté une machine assez opérationnelle, et toutes les semaines, je partais sur le terrain le jeudi pour visiter des projets financés par l'Europe, dans l'agriculture, les investissements publics. L'Europe est très présente sur le terrain, par la PAC, la politique agricole commune, mais aussi par les fonds structurels, ou le Fonds social européen. Et puis, l'après-midi, je faisais un débat public, et qui a rassemblé entre 600 et 2000 personnes. Et il y avait toujours un ou deux ambassadeurs des pays d'Europe centrale qui venaient là. Il y avait parfois un commissaire européen parlant français. Ça arrive. Et on allait dialoguer sans trop de filtres. Hein. Ça a été des débats. Et je me suis aperçu que les gens avaient toujours des choses à dire, que c'était toujours passionnant. Je regrette que cet effort n'ait pas été continué, parce que ma deuxième réponse, c'est que l'Europe exige qu'on en fasse la preuve tous les jours. On ne peut pas décréter qu'on a raison d'être européen et ne pas en faire la preuve avec les citoyens et animer le débat et répondre aux inquiétudes. L'Europe, elle inquiète et elle intéresse. Tous ceux qui nous écoutent sont sans doute dans cet état d'esprit. On est inquiets et intéressés par l'Europe. Donc il faut qu'on réponde à cette inquiétude, parfois justifiée, souvent justifiée, et qu'on aille à la rencontre de cet intérêt aussi, en expliquant et en écoutant. Donc je pense que cet effort de dialogue national pour l'Europe devrait être permanent. Faute de quoi, le fossé va s'élargir. Mais, encore une fois, la vraie raison du fossé, elle n'est pas liée à la communication. Elle est liée aux erreurs qui ont été faites par les institutions européennes. Trop de temps passé dans les détails, pas assez sur les grands sujets, ça c'était une phrase de Jean-Claude Juncker. Des erreurs majeures, par exemple, l'excès d'ultralibéralisme qui a inspiré Bruxelles pendant 30 ans, avec le soutien de gouvernements de gauche et de droite, qui nous a conduit à ouvrir toutes nos portes, sans aucune réciprocité, avec beaucoup de naïveté, à déréguler. J'ai été l'un des acteurs de la réponse européenne après la crise financière de 2008, en devenant commissaire aux services financiers et au marché intérieur en 2010, donc en plein cœur de cette crise. On a reconstruit pendant 5 ans, patiemment, avec le Parlement, avec les ministres, toute l'architecture de régulation financière qui avait été détricotée pendant 30 ans, en nous laissant désarmés. Et quand un certain nombre de banquiers américains qui se croyaient tout permis, parce qu'on leur a tout permis, ont provoqué cette crise financière qui est venue s'amplifier et percuter l'Europe, on était désarmés. Donc nous avons fait des erreurs parce que cette crise, elle a créé beaucoup de désespoir, beaucoup de drames, beaucoup de chômage. Et on en a, par exemple, au Royaume-Uni, on pourra parler du Brexit, vu les conséquences dans beaucoup de régions.
Donc nous, l'Europe, nous en parlons chaque semaine, nous disputons parfois un peu à ce sujet. On va parler d'un acteur que vous connaissez bien dans l'architecture européenne, qui est la Commission. Vous avez été commissaire européen à 2 reprises. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la Commission à travers ces 2 dernières décennies, et plus particulièrement sur les orientations politiques de la Commission von der Leyen, qui semble toujours plus volontariste dans son ambition d'établir de nouvelles normes et réglementations, que d'ailleurs chacun jugera pour le meilleur ou pour le pire. L'Union européenne a longtemps été considérée comme une structure politique qui permettait de sortir la France de certaines de ses turpitudes. Le plus bel exemple est probablement l'euro. On imagine mal où on en serait aujourd'hui s'il n'y avait pas la monnaie commune, vu l'état des finances publiques françaises. Mais on a l'impression aujourd'hui, à tort ou à raison, vous nous direz, que le projet européen au niveau de la Commission épouse certaines passions françaises, technocratiques, planificatrices, à cause notamment d'une Commission qui veut toujours préempter de nouveaux champs d'action, quitte à bafouer parfois le principe de subsidiarité, sans pour autant être efficace sur les problématiques fondamentales comme la maîtrise des frontières extérieures de l'UE. Vous avez dit l'Union européenne intéresse et inquiète. Que pensez-vous de l'évolution de la Commission ?
D'abord, peut-être prendre quelques secondes ou quelques minutes pour expliquer ce qu'est la Commission européenne. Les institutions européennes sont compliquées, et ça ne peut pas être autrement. Il faut bien expliquer ce que nous faisons depuis 60 ans. Et moi, je ne suis qu'un des relais ou un des acteurs qui a hérité de cette grande histoire, de ce grand projet qui doit le transmettre avec d'autres. Nous ne faisons pas un État fédéral. Il n'y a pas une nation européenne. Il n'y a pas un peuple européen. Il y a 27 États, il y a quelques mois c'était 28 avec le Royaume-Uni, 27 peuples, 24 langues différentes que nous parlons. Chacune de ces nations a sa propre identité, sa langue, ses cultures, ses traditions, sa différence. Et chacune d'entre elles tient cette différence. Nous, Français, nous tenons à notre différence. Parfois même, d'ailleurs, ces différences sont plus régionales, en Auvergne, en Corse ou en Savoie. Nous voulons être respectés. Et donc, nous devons respecter les autres. Et quand on a bien compris ça, parce que c'est la vérité du projet européen, ça veut dire qu'il faut, pour que ces pays travaillent ensemble, avoir des institutions qui ne peuvent pas être simples. Si c'est simple, c'est uniforme. Et on ne veut pas une Europe uniforme, on veut une Europe unie, c'est très différent. Donc, il faut assumer cette complexité. Et au milieu de ces institutions qui font fonctionner ce continent européen, en respectant les nations, en respectant les différences, mais en mutualisant un certain nombre d'initiatives et de politiques, il y a une institution qui joue le rôle d'un personnage qui n'existe pas en Europe, qui est le Premier ministre. La Commission européenne joue ce rôle-là. C'est, on dirait en anglais, un collective body, un corps collectif de 27 personnes qui sont issues des 27 pays, mais qui ne défendent pas les intérêts de leur pays, qui défendent l'intérêt général européen. Et nous prêtons serment, quand on devient commissaire, devant la Cour de justice, de ne pas défendre des intérêts privés, naturellement, et internationaux non plus. On travaille à l'intérêt général européen. Chacun de ces commissaires est chargé d'une politique qu'on a mutualisée, qu'on a décidé de mutualiser. Et ce groupe de 27 personnes, animé aujourd'hui par une femme, Ursula von der Leyen, exprime l'intérêt général européen et fait des propositions de loi, des propositions de budget, des propositions de débat, et exécute les décisions qui sont prises. Et par qui sont prises les décisions ? Elles sont prises par deux chambres, comme chez nous, le Sénat et l'Assemblée, à Bruxelles et à Strasbourg. C'est la Chambre des États, le Conseil des ministres, avec au-dessus le Conseil des chefs d'État, qu'on appelle le Conseil européen, qui se réunit tous les trois mois, et puis la Chambre des citoyens, qui est le Parlement européen. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, c'est forcément un peu compliqué. Après, ça dépend du tempérament des hommes, des circonstances, de ce qui se passe autour de nous et chez nous. La Commission européenne fait des propositions de directives, de budget, de politique, avec une certaine certitude et parfois une certaine arrogance. Il y a beaucoup d'intelligence à Bruxelles. Moi, j'ai eu l'honneur de diriger à deux reprises les administrations européennes. Beaucoup d'intelligence. Mais il faut que les politiques jouent leur rôle. Les commissaires européens ne sont pas des hauts fonctionnaires. Ils ne doivent pas se comporter comme des hauts fonctionnaires. Ce sont des hommes et des femmes politiques. Ils doivent assumer. Vous savez, à Bruxelles comme à Paris, si les bureaucrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut que les hommes et les femmes politiques dirigent. Alors, la Commission actuelle affronte beaucoup de crises depuis 4 ans, depuis 5 ans. Ça a été la crise financière qui n'est pas finie, ça a été le Covid, ça a été l'immigration, déjà du temps de Jean-Claude Juncker, ça a été la guerre en Ukraine qui continue et qui est extrêmement grave. Je trouve que la résilience et la réaction, la réactivité plutôt été positive et encourageante. Voilà, on a plutôt résisté, on est plutôt resté unis, on a plutôt tiré des leçons. Maintenant, il faut faire attention et aussi à ce que cette machine administrative très intelligente ne produise pas trop de normes, ne s'écarte pas trop des peuples. Il faut veiller à ce que ce qui se propose à Bruxelles, qui ne sont que des propositions, soient acceptables par les gens. Ce n'est pas toujours le cas, notamment en matière normative.
Michel Barnier, vous êtes très connu en Europe pour avoir été entre octobre 2016 et mars 2021 le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit. Vous faites le récit de cette expérience dans un ouvrage passionnant publié chez Gallimard et intitulé « La grande illusion, journal secret du Brexit 2016-2020 ». Sur cette expérience, nous avons plusieurs questions à vous poser. Si l'on s'intéresse d'abord à la négociation elle-même, quelles sont pour vous les raisons qui explique que l'Union européenne soit parvenue à maintenir son unité face au Royaume-Uni ? Et vous, en tant que négociateur, quelle a été votre technique, votre recette pour préserver, malgré les tensions, les divergences, les différences que vous évoquiez auparavant entre les différents États membres, cette unité des 27 ?
L'unité, ni sur le Brexit, ni sur aucun autre sujet, elle tombe du ciel. Hein. Jamais. Elle n'est pas là par hasard. Elle se construit dans le respect, dans l'écoute, dans le dialogue. Hein. On ne dit pas « il faut être uni ». On doit construire l'unité. Et donc, dès le début, j'ai pensé que cette unité serait très difficile et très nécessaire. Et donc, j'ai proposé à Jean-Claude Juncker, qui m'avait proposé cette mission extraordinaire et difficile de négocier le Brexit pour l'Europe, pour l'Union européenne, pour les trois institutions. Je suis devenu assez vite le négociateur de la Commission où je me trouvais, des chefs d'État et de gouvernement qui m'accueillaient d'ailleurs à la table du Conseil européen pendant 4 ans, et puis du Parlement européen. Et j'ai proposé à Jean-Claude Juncker une méthode qui est la clé de cette unité, et qui n'est pas tellement habituelle à Bruxelles, qui est la méthode de la transparence. Nous avons donc décidé de tout dire sur cette négociation à ceux qui nous faisaient confiance, les gouvernements, le Parlement, les chefs d'État, de tout leur dire sur tous les sujets de la négociation, en même temps et le même jour. Et au bout de quelques mois, ils se sont aperçus que c'était vrai. Que mon équipe, mes adjointes, à l'époque Sabine Veillante et Stéphanie Rizeau, puis Paulina Dejmec et Clara Martinez, on a tout dit à tout le monde, à tous les gouvernements. Il y avait un groupe de travail à Bruxelles, en anglais on dit de 27 Brexit Delegates, de délégués du Brexit de chaque gouvernement, de chaque ambassade, qui se réunissait une ou deux fois par semaine, et à qui j'allais, ou mes adjointes, allaient dire la réalité, la vérité de la négociation, les difficultés, souvent les difficultés, tous les jours. Et donc, il y avait des télégrammes qui partaient dans chaque capitale vers le Premier ministre ou le chef d'État. Et ainsi, ils ont été informés de tout, et ils ont eu confiance, tout simplement. Ils se sont dit, le négociateur, Michel Barnier, nous dit les choses. Et puis, j'ai ajouté à cela une présence à laquelle j'ai été invité de participer au Conseil européen, donc créer des liens personnels avec chacun des chefs d'État, puisque j'étais à leur table pendant 4 ans pour tous les points Brexit. Et enfin, je suis allé dans chaque capitale une fois par semaine, une capitale par semaine, où je rencontrais à nouveau le Premier ministre dans son bureau, les ministres clés, les syndicats, souvent étonnés que je leur demande une rencontre, le patronat, et puis le Parlement national. Donc une totale transparence publique, et puis dans la négociation à l'égard des décideurs. Donc tout ça a créé beaucoup de confiance. Et ainsi, on a pu aller pendant ces 4 années avec une autre réalité qui explique l'unité, c'était l'obligation d'être au bout de la route unanime. Il y a parfois trop d'unanimité à Bruxelles. Et l'unanimité, ça veut dire qu'un ministre d'un pays peut bloquer tous les autres. Et quelquefois, avec ce système-là, on avance au pas du pays le moins pressé. Mais dans ce cas-là, du Brexit, être obligé d'être unanime, de se mettre d'accord, ça a obligé chacun des gouvernements à accepter les préoccupations justifiées des autres. Et ainsi, le cas le plus grave et le plus important, c'est l'Irlande. Alors, en Irlande, il ne s'agit pas d'une question technique ou commerciale ou financière, il s'agit de la paix. Est-ce qu'on maintient la paix dans ce pays, en Irlande du Nord, où il y a eu près de 4000 morts dans ce conflit en Irlande du Nord? Ce problème-là est devenu le problème des 26 autres. Mais, autre exemple, la pêche. Nous pêchons beaucoup dans les eaux britanniques, et les Britanniques voulaient nous mettre dehors. On a négocié, je crois, un accord qui n'est pas idéal, mais qui est raisonnable. Il y a 8 pays, principalement, qui pêchent dans les eaux britanniques, dont la France, la Belgique, les Pays-Bas. Ce problème est devenu le problème des 27 pays de l'Union. Gibraltar, qui est une préoccupation fondamentale pour l'Espagne, c'est devenu la préoccupation des 27. Et donc, dès l'instant que chaque pays a compris que ce à quoi il croyait, ce dont il avait besoin devenait l'affaire de tout le monde, ça a été aussi une source de l'unité. Voilà. Pardon de cette réponse un peu longue, mais elle n'est pas tombée du ciel, l'unité des 27.
La négociation que vous avez menée a été considérée et décrite par la plupart des observateurs comme un grand succès pour l'Union européenne. Pour autant, vous avez alerté, et c'était d'ailleurs parfois un message qui a été mal compris, notamment lorsque vous faisiez campagne pour être candidat des Républicains à l'élection présidentielle, sur la nécessité de tirer les leçons du Brexit. Or, aujourd'hui, avez-vous le sentiment que l'Union européenne et nos gouvernements nationaux ont tiré les enseignements des raisons qui ont conduit le Royaume-Uni à choisir de quitter l'UE ? Ou pensez-vous, au contraire, que la majeure partie de nos élites, notamment à Bruxelles, se complaisent et se rassurent dans le fait que le Brexit n'a pour l'instant pas été un succès pour les Britanniques.
Je ne crois pas qu'on puisse parler de succès dans une négociation qui reste la négociation d'un divorce. Et un divorce, pour ceux qui les ont vécus, en tout cas beaucoup de mes amis qui ont dû divorcer ou qui ont divorcé m'ont dit cela, est toujours pénible, coûteux. Et le Brexit est un divorce. Et donc il y a des raisons à chercher à ce divorce. Et c'est aussi un échec de l'Union européenne. Qu'un pays aussi important que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne après 45 ans de coopération, c'est un échec. Donc il faut comprendre pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre l'Europe. Et il y a des raisons qui tiennent au populisme, à la démagogie de M. Farage, de M. Johnson, à beaucoup d'engagements financiers aussi derrière eux, à des influences russes ou américaines. Mais il y a principalement à la source du Brexit un sentiment populaire qu'il faut écouter, qu'il faut comprendre, auquel il faut répondre. Le sentiment populaire, c'est la colère sociale dans beaucoup de régions britanniques pauvres, où il n'y a plus d'avenir, où il n'y a plus d'usines, où il n'y a plus de travail, une immigration qui n'est pas maîtrisée, et tout cela crée une colère sociale. Et c'est la colère sociale qui est la principale raison de ce rejet de l'Union européenne, parce que les Brexiteurs, avec beaucoup de démagogie, ont orienté cette colère sociale contre Bruxelles, alors que les raisons sont parfois à Londres ou ailleurs. C'est la même chose chez nous. Donc, dans mon livre, vous avez bien voulu en parler, le journal secret du Brexit, que j'ai écrit au fur et à mesure de la négociation, tous les jours. Le premier chapitre s'appelle « Un avertissement ». Il faut faire attention, le Brexit n'était pas quelque chose de probable. Même ceux qui le voulaient n'y croyaient pas, d'ailleurs. Et puis, il est arrivé, par la volonté d'une majorité de citoyens. Il faut se méfier des événements qui sont improbables et qui peuvent arriver. Et donc, je recommande qu'on fasse attention. Alors, est-ce qu'on tire les leçons ? Oui et non. On a commencé à les tirer, en maîtrisant un peu mieux nos frontières, en créant 10 000 postes de garde-frontières, de garde-côtes, qui ne sont pas, d'ailleurs, tous opérationnels. Donc, il faut aller au bout de cette décision et créer cette garde communautaire de nos frontières, avec ces 10 000 postes qu'avait proposé Jean-Claude Juncker. Oui, en ayant pour la première fois une ambition industrielle. Le commissaire Thierry Breton porte cette ambition, parfois difficilement, mais on voit que l'Europe oriente un peu mieux ses investissements et emprunte même, pour la première fois on emprunte ensemble pour investir ensemble, pour se donner les moyens de la production industrielle. Plutôt que de simplement acheter, commercer, faire du service, rester un territoire où on produit. D'ailleurs, la situation est inégale en Europe. Des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Suède ont gardé leur industrie, nous l'avons abandonnée. Les Anglais aussi avaient abandonné leur industrie au profit des services. Et c'était une grande faute. Donc nous devons redevenir un territoire où on produit. Produit ce dont on a besoin, produit les outils ou les produits de l'indépendance, de la souveraineté européenne. Pas seulement dans l'industrie d'ailleurs, on reste un pays, un territoire qui produit dans le domaine agricole et alimentaire. Là où il faut aussi se méfier de l'idéologie à Bruxelles parfois, qui consiste à dire il faut polluer moins. Moi je suis un des premiers militants de l'écologie, d'une écologie humaniste et concrète, et je pense qu'il faut polluer moins. Et on ajoute à Bruxelles, dans certains cercles, il faut produire moins pour polluer moins. Moi je pense qu'on peut produire plus et qu'on doit produire plus, l'industrie, l'agriculture, et polluer moins, et c'est possible avec de la recherche. Donc voilà, les premières, on a moins de naïveté dans nos échanges commerciaux, même si on croit toujours que les autres nous suivront. Non, personne ne nous suit, les autres se protègent, mieux que nous n'avons su le faire nous-mêmes européens depuis 30 ou 40 ans dans cette forme de naïveté un peu bucolique, si je puis dire, dans nos échanges commerciaux.
Le titre de votre livre, La Grande Illusion, est très révélateur de cette naïveté que vous venez d'évoquer, de nombreuses parties prenantes, peut-être aussi d'idéologie, et on parle aussi beaucoup, en opposition à un sentiment populaire, d'une certaine bulle bruxelloise, qui a aussi une capacité à être parfois déconnectée, appelons ça du réel, du sentiment populaire, et à s'enfermer dans une forme d'euro-béatitude qui, malgré votre engagement très pro-européen, n'est pas la vôtre. Dans ce contexte, comment pouvez-vous nous expliquer, comment vous analysez le lien qui unit la patrie d'une part et l'Europe ? Est-ce que ce lien en France s'est fondamentalement remis du référendum de mai 2005 sur le traité qui établissait une constitution pour l'Europe ? Référendum, traité rejeté par les Français, mais dont les principales orientations sont tout de même rentrées en vigueur. Et comment aujourd'hui recréer ce lien qui existe sur le plan culturel, sportif, civilisationnel, indiscutablement, mais qui manque parfois sur le plan politique et démocratique?
Alors, il faut toujours faire la preuve de l'Europe. Une manière de répondre à votre question, c'est de rappeler qu'on ne veut pas effacer les différences. Nous voulons garder nos traditions et nos différences. Donc, il faut bien expliquer aux citoyens que le projet européen ne consiste pas à tout faire décider par Bruxelles. Que nous partageons ce projet et que nous gardons chacun nos traditions et ce à quoi nous tenons, tout en mutualisant. Ça, c'est une première réponse. Parce que le sentiment existe que tout va se décider dans l'avenir à Bruxelles. Le général de Gaulle, qui a beaucoup compté pour moi dans mon engagement politique, et je reste très fier comme jeune militant, disait dans un discours « Il ne faut pas que l'Europe broie les peuples comme dans une purée de marrons. » On ne veut pas être broyé dans une purée de marrons. Les peuples ne veulent pas être broyés, ne veulent pas être ignorés ou négligés ou effacés. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que ce qu'on décide ensemble, les politiques qu'on a décidé de mutualiser démontrent leur valeur ajoutée pour les citoyens. Et là, on est dans un deuxième point qui exige du débat, du dialogue. J'appelais ça tout à l'heure la pédagogie de l'Europe et du monde. Il faut regarder le monde tel qu'il est. Et vous savez, moi, je crois que le peuple français, les peuples sont plus intelligents que certains hommes ou certaines femmes politiques ne le croient. Quand on regarde le monde tel qu'il est, on voit bien que on peut plus résister, se défendre tout seul. Je montre souvent un tableau des 10 pays les plus importants par leur économie du monde. Un tableau actualisé tous les 10 ans, avec des perspectives. Aujourd'hui, dans les 10 pays les plus importants du monde, vous avez 4 pays européens. L'Allemagne, le premier, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Quand vous regardez l'évolution probable des autres, parce que personne ne nous attend, ni les Américains, ni les Chinois, ni les Indiens, personne ne nous attend. Parfois, on nous espère, mais plus personne ne nous attend. Tous les 10 ans, dans le tableau actualisé, il y a un des 4 pays qui est éjecté, qui n'est plus dans le tableau. Et en 2050, la probabilité, c'est qu'il n'y aura plus que l'Allemagne qui sera à la table des 10 pays les plus importants du monde, là où s'organisera l'ordre ou le désordre du monde. Et donc la question, c'est comment on est à cette table? Comment nous, Français ou Belges ou Luxembourgeois, Allemands, nous restons à cette table? La seule réponse possible, raisonnable, c'est d'être à cette table en tant qu'Européens, Union européenne. Sinon, nous sommes éjectés. Et on devient sous-traitant et sous influence des Chinois et des Américains. Et moi, je ne me suis pas engagé en politique pour qu'on soit sous-traitant et sous influence. Et puis après, la troisième réponse, c'est que vous parliez de l'acceptabilité, j'en ai moi-même parlé. On fasse attention à ce que ces hommes et ces femmes intelligents à Bruxelles, qui ont des ambitions, des idées, ne cherchent pas à les imposer à des peuples qui n'en voudraient pas. Je vous ai dit tout à l'heure mon sentiment en matière d'écologie, de l'agriculture durable. Je ne crois pas à la décroissance. Moi, je crois à une croissance écologique. Voilà, conviction depuis très très longtemps. La croissance doit être écologique, doit être plus respectueuse des espaces, des ressources naturelles qui ne sont ni gratuits ni inépuisables. Ça exige que les citoyens comprennent et acceptent et participent.
Alors, vous venez d'évoquer l'écologie. Nous souhaitions justement évoquer cette thématique qui appelle des réponses européennes, voire même mondiales. En 1973, à l'âge de 22 ans, vous étiez chargé de mission auprès de Robert Poujade, qui, dans le second gouvernement de Pierre Messmer, un gouvernement de droite, avait été le premier ministre de l'environnement que la France ait connu. Vous-même, 20 ans plus tard, en 1993, vous êtes devenu ministre de l'environnement dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Lorsque vous aviez ce portefeuille, vous avez entre autres réalisations créé la Commission nationale du débat public pour les grands projets d'infrastructure, vous avez instauré les prémices du principe de précaution et vous avez également institué les bases d'une fiscalité écologique avec une taxe visant à faire participer les passagers de transport maritime à la protection d'espaces protégés. Vous, un homme de droite, vous avez donc placé l'écologie, l'environnement, au cœur de votre engagement, de votre parcours. Dans ce contexte, comment expliquez-vous que, pour un grand nombre de nos concitoyens, la droite française ne parvienne plus aujourd'hui à incarner l'ambition écologique? Et comment, selon vous, la droite peut-elle parvenir à se réapproprier cette question fondamentale, afin notamment d'éviter que l'écologie ne devienne le monopole de forces politiques qui n'en ont qu'une vision purement punitive?
Oui, oui, votre question comporte en partie la réponse. D'abord, je rappelle que c'est Georges Pompidou, qui était un grand président de la République française, qui a eu une ambition de réindustrialisation de la France, qui a lui-même voulu, parce qu'il était un humaniste, c'était un homme de lettres, qui a voulu créer ce ministère de l'Environnement en 1971. Il l'avait confié à Robert Poujade, qui était à l'époque aussi le maire de Dijon. Et j'ai eu l'honneur d'être très modestement membre de son équipe. Et effectivement, en 1993, j'ai eu l'honneur de devenir ministre de l'Environnement et de continuer ce travail patient. L'écologie, si on la regarde objectivement, elle n'est pas de gauche ou de droite. Je vous ai dit, mon engagement gaulliste, et De Gaulle s'est marqué d'ailleurs sous la croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises, le seul combat qui vaille, c'est le combat pour l'homme. Nous parlons bien de l'homme et des conditions dans lesquelles l'homme, la femme, les enfants, les jeunes vont pouvoir vivre sur une planète où il y a de plus en plus de monde, de consommation, de moins en moins de ressources et d'espace naturel. Donc l'idée d'avoir une gestion plus sobre, une croissance plus sobre, plus économe, c'est une idée vitale pour l'homme. Hein. Donc cette idée, elle n'appartient pas à la gauche ou à la droite. Simplement, un certain nombre de groupes, dont les responsables d'ailleurs, je pense à Dumont ou à d'autres, n'avaient pas tort, puisqu'ils étaient dans des discours un peu prémonitoires, ces groupes sont devenus très idéologiques, très radicaux, très durs. Et c'est par opposition à ces groupes que peut-être la droite se positionne. Moi, je pense qu'elle doit se positionner par rapport aux problèmes, par rapport aux problèmes. Comment on gère la rareté des ressources, comment on gère la rareté des espaces, comment on se prépare à ce que ce changement majeur, qui est que 1,5 degré ou 2 degrés de plus, va tout changer. Vous avez rappelé que j'ai présidé la Savoie. Un gros tiers de l'économie de la Savoie repose sur la neige. 1,5 degré ou 2 degrés de plus, ça change tout. Je peux dire de combien de semaines le temps des vendanges a été accéléré depuis 20 ans à cause du changement climatique. Je peux dire pourquoi on ne trouve plus les mêmes poissons aux mêmes endroits depuis 30 ans le long de la côte atlantique. Ça change tout. Et donc il faut, c'est pas une affaire de gauche ou de droite ou de groupuscule ou de vert, c'est une réalité. Donc comment on se prépare à cette réalité? Et donc la droite républicaine, le centre, qui j'espère auront à nouveau l'ambition de gouverner ensemble et de faire une proposition de gestion du pays aux Français, doivent se saisir cette question qui est prioritaire. C'est ce que j'appelle la croissance écologique.
La question écologique est aussi une question diplomatique et géopolitique. Et la France aime à penser, parfois, souvent, à juste titre d'ailleurs, qu'elle joue un rôle moteur et majeur au niveau mondial sur cette thématique et dans les négociations relatives à l'établissement de nouvelles normes, pratiques, objectifs de baisse des émissions de CO2. L'accord de Paris, sous François Hollande, avait d'ailleurs été considéré comme un succès diplomatique pour la France. Mais au-delà de la question écologique, que pensez-vous de la stratégie diplomatique de la France ces dernières années, souvent résumée médiatiquement aux prises de parole du président de la République, comme récemment dans un avion de retour de Chine? Comment jugez-vous l'évolution de nos relations avec certains de nos partenaires historiques extra-européens, qu'il s'agisse de pays africains, américains ou d'Asie-Pacifique?
La France est un grand pays. Et ce que nous ne ferons pas pour notre pays, pour son influence, pour son développement, personne ne viendra le faire à notre place. Donc nous devons avoir cette ambition. Nous devons nous souvenir d'où nous venons, de notre histoire, en l'assumant, pas en s'en excusant, dans toutes ses dimensions, ses ombres et ses lumières. Nous avons une influence dans le monde, nous avons une présence dans le monde, nous avons 3 millions de Français qui vivent à l'étranger, qui sont actifs, qui parlent notre langue, qui développent une influence, qui créent des entreprises. Nous avons des départements et des territoires d'outre-mer dans les 3 océans, le Pacifique, l'Atlantique, l'océan Indien. Il faut s'appuyer sur tous ces atouts, corriger nos faiblesses. Mais nos faiblesses, elles sont plus liées à des erreurs ou à des fautes de gestion du pays. Personne à l'étranger, ni à Bruxelles, ni ailleurs, n'est venu nous demander de faire les 35 heures, ou n'est venu nous demander d'augmenter à 3 000 milliards notre dette, ou de faire ce déficit du commerce extérieur. Ça, ce sont nos faiblesses à nous que nous serons les seuls à pouvoir corriger. Alors, dès l'instant où nous sommes un grand pays qui a une grande histoire et un message à porter, il faut de l'influence. Voilà. Et moi, je pense que l'influence ne se décrète pas. Elle ne tombe pas du ciel non plus. Elle se construit autrement que nous le faisions dans le passé. Elle se construit par de l'attention aux autres, par des convictions qu'on exprime sans arrogance, par du temps passé avec les autres, pas seulement pour délivrer des discours, mais pour les écouter. C'est vrai en Europe, où chaque pays a une valeur ajoutée, c'est vrai dans le monde. Alors, je ne vais pas faire de polémique, je n'ai pas envie de faire de polémique, mais je trouve que le président de la République actuel a souvent de bonnes intuitions, l'intuition qu'il faut être européen en plus d'être patriote, je l'ai depuis longtemps et je suis content qu'il soit européen. L'intuition que notre pays doit être un allié sincère et crédible, mais l'alliance, ça ne veut pas dire l'allégeance à l'égard des États-Unis. Ça, ce sont de bonnes intuitions. Est-ce qu'il les exprime toujours au bon moment et de la bonne manière? Non. Quand il a critiqué l'OTAN il y a 2 ans, j'ai vu immédiatement au niveau européen des pays se recroqueviller et nos efforts en matière de défense européenne reculer parce qu'il n'y avait plus de confiance. L'autre jour, en revenant de Chine, il a dit des choses que je peux comprendre sur la nécessité d'être allié sans être soumis, de préserver le statu quo en mer de Chine, de garder le dialogue ouvert avec ce très grand pays qu'est la Chine sans naïveté. Est-ce qu'il l'a dit de la bonne manière, dans un avion, avec des journalistes? Je ne le crois pas. Et donc, ça crée beaucoup d'incompréhension. Parce qu'il faut passer plus de temps à expliquer ensuite qu'à agir, je trouve que c'est du temps perdu. Voilà, donc je pense qu'il y a eu souvent, depuis quelques années, une gestion très solitaire de notre diplomatie. Voilà, parfois arrogante. Et qu'il faut en revenir à une autre pratique. Voilà, il faut que la France soit fière, il faut qu'elle affirme ses convictions. Encore une fois, dans les grands enjeux d'aujourd'hui, beaucoup de choses sont liées à la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Beaucoup. Est-ce qu'on est spectateur de cette confrontation? Est-ce qu'on est acteur avec nos propres intérêts, nos propres idées? Je pense qu'il faut être acteur. Et être acteur, ça veut dire être européen. Et ça veut dire aussi qu'il faut convaincre et écouter les autres Européens plutôt que de leur asséner des vérités.
Au début de notre entretien, vous rappeliez la fierté qui avait été la vôtre d'avoir été le coprésident aux côtés de Jean-Claude Killy des Jeux Olympiques et Paralympiques d'Albertville en 1992. Le petit garçon que j'étais alors n'avait à l'époque que 6 ans. Mais je me souviens pourtant d'une immense fête populaire, d'un de ces rares moments où la nation française communiait ensemble autour de ses champions et projetait aux yeux du monde une image de confiance, de foi dans l'avenir. L'année prochaine, vous l'avez rappelé, la France accueillera à nouveau les Jeux Olympiques. Mais en 3 décennies, le lien social s'est fragilisé, la France s'est atomisée, archipélisée, pour reprendre l'image d'un célèbre politologue. Dès lors, avec la perspective unique qui est la vôtre, qu'attendez-vous des Jeux de 2024 ? Pensez-vous que la flamme olympique pourra être un moment de communion de la nation française qui soit autre chose qu'une simple parenthèse?
Oui, ma réponse est oui. Je souhaite et je pense que les Jeux olympiques, parce qu'il s'agit de sport, parce qu'il s'agit des jeunes, parce qu'il s'agit de paix, parce qu'il s'agit de confrontation avec du fair play, des règles du jeu collectif, souvent, doivent être ce moment social et humain où on se retrouve. Voilà. Comme c'est le cas quand on regarde un match de foot ou de rugby ou une belle compétition sportive. On communie ensemble. Ça, c'est des moments qui n'ont pas de prix. C'est pour ça que je trouve très bien que la France ait eu l'ambition d'organiser les Jeux de Paris, comme nous avions eu il y a 30 ans avec Jean-Claude Killy et le soutien de François Mitterrand à l'époque, l'ambition d'organiser les Jeux d'hiver. Il faut qu'on garde cette ambition. Je parlais d'influence française, ça fait partie de notre influence, que d'être capable d'organiser, de bien organiser avec la sécurité, avec une organisation impeccable de grands événements, d'accueillir le monde entier chez nous, ça fait partie de notre influence, en dehors de du sport qui rassemble. Donc ma réponse est oui. J'ai appris une chose en organisant les Jeux Olympiques, pour moi utile tout au long des années qui ont suivi, c'est que on a besoin de relever la ligne d'horizon. Toujours, dans une entreprise, quelle que soit sa taille, dans une collectivité locale, un territoire. Quand les citoyens lèvent les yeux, il faut les inviter à lever les yeux, il faut voir quelque chose. Si vous ne voyez rien, parce que celui qui dirige ne propose rien, chacun se replie. Et c'est à nouveau le chacun pour soi. Et donc, en organisant les Jeux Olympiques, on s'est aperçu qu'on proposait cet événement 5 ou 10 ans après, parce qu'on avait commencé 10 ans avant, d'organiser cette fête du sport mondial qui était les Jeux Olympiques. Et les Savoyards relevaient les yeux et voyaient ça. Et ça rendait non pas les choses faciles, mais moins difficiles. Parce que si vous mettez les choses en perspective, vous relativisez les difficultés, vous ne les supprimez pas, vous les relativisez. Et donc, ensemble, on les surmonte plus facilement. J'ai appris une deuxième chose, d'ailleurs, dans les Jeux Olympiques, c'est que tous ceux qui nous ont aidés, on avait 8000 volontaires à l'époque, aujourd'hui, à Paris, il y en aura peut-être 50 000, des jeunes et des moins jeunes qui ont donné du temps, qui vont donner du temps gratuitement pour réussir les Jeux. Chacune de ces personnes, j'en vois encore aujourd'hui, 30 ans après, a eu le sentiment de s'améliorer, d'être meilleur individuellement, personnellement, parce qu'il a participé, il avait participé à la réussite d'un projet collectif. Voilà. Vous voyez, ces deux sentiments-là qu'il faut retrouver dans notre pays. Qu'on ait une perspective, qu'on relève la ligne d'horizon, et puis que chaque citoyen ait le sentiment de s'améliorer, d'être meilleur en participant à la réussite du pays.
Vous venez d'évoquer, à propos du sport, les notions de fair play, de règles du jeu, de jeu collectif. La transition est bien évidemment évidente. Nous allons parler des Républicains.
C'est pas tellement évident, hein. Mais c'est vous qui le dites. Alors,
j'étais ironique, je me permettais d'être un peu ironique. Vous avez successivement été membre de l'UDR, parti gaulliste, puis du RPR, de l'UMP, et donc aujourd'hui du parti Les Républicains. Mais depuis plusieurs années, cette famille politique qui est la vôtre, celle d'une droite pro-européenne, censée être libérale, d'héritage revendiqué gaulliste, semble voir son espace politique s'amenuiser. Elle semble prise en étau entre d'un côté un macronisme qui s'est emparé d'une partie de l'électorat du centre-droit et d'autre part une extrême droite dont la progression est toujours plus forte. Tout cela alors que la France n'a, à l'exception peut-être de certaines questions économiques, jamais semblé être autant à droite sur de nombreux sujets. Dans ce contexte, pensez-vous qu'il y a encore un avenir pour un parti de droite, dite républicaine, pro-européen, assumant une forme de responsabilité sur les questions économiques? Et alors, on peut espérer, imaginer que oui, mais dans ce cas-là, quel est le chemin qui doit être pris pour redonner ce nouvel élan à cette famille politique? Est-ce que cela passera par les hommes ou par un profond aggiornamento idéologique et théorique?
Oui, vous avez cité tous les noms successifs de cette famille qui a toujours été la même, qui est issue du message du général de Gaulle depuis le parti qu'il avait lui-même créé, le RPF sous la 4e République, puis l'UNR, et avec sa branche d'ailleurs plus sociale. Et moi j'ai toujours, depuis que j'ai 15 ans, été membre de cette famille politique et je ne le regrette pas. Ça reste ma fierté, mais ça a toujours été la même ligne, hein, avec des mouvements ou des sensibilités parfois un peu différentes ou complémentaires. Mais aujourd'hui, ce parti est en très grande difficulté. Il est d'ailleurs menacé de disparaître. Et moi, je reste persuadé que cette famille politique, avec les valeurs qu'elle porte, est indispensable au débat politique. Je regrette beaucoup que, depuis 6 ou 7 ans, on ait fait beaucoup d'efforts du côté de l'exécutif actuel pour effacer, entre le parti central, qui était celui de M. Macron, et les extrêmes, tout ce qui existait. Alors, il y a eu des fautes de notre côté, du côté du Parti Socialiste, mais je trouve que c'est pas bien que les forces de centre-gauche ou les forces de centre-droit aient disparu. Parce que quand il n'y a plus rien, il ne reste plus que les extrêmes comme alternative. Et donc, c'est ça dont il faut sortir. Et là, on a cette occasion, dans les 4 ans qui viennent, de reconstruire une force politique, une proposition politique pour les Français qui regroupe la droite républicaine à laquelle j'appartiens et le centre. Tous ceux qui sont dispersés, un jour ici ou là, et qui devraient pouvoir se retrouver pour faire cette proposition. Je pense d'ailleurs qu'il serait salutaire que du côté du centre-gauche, de l'ancien Parti Socialiste, il y ait le même effort de reconstruction. Voilà. Et donc c'est à ça que je veux travailler. Je pense que pour réussir, il faut d'abord partir des idées. Si vous mettez les hommes d'abord, le moment viendra, quand on s'approchera des élections présidentielles, de choisir celui ou celle qui portera ce message ou cette proposition. Mais si vous commencez par les hommes, vous vous affaiblissez. Je pense qu'il faut commencer par le projet politique qui tienne compte du monde tel qu'il est, des nouveaux grands enjeux. On a parlé de la confrontation États-Unis-Chine, on a parlé d'écologie, on a parlé de la sécurité. Comment on existe dans ce monde-là, pourquoi il faut être patriote européen, c'est une des lignes. Pourquoi il faut trouver les moyens d'une écologie humaniste, d'une croissance écologique, je dis bien d'une croissance, pas de la décroissance. Comment on doit inventer les nouvelles formes de la République, J'avais créé un club à une époque qui s'appelait Nouvelle République, les nouvelles formes de consultation des citoyens, comment il faut changer l'Europe. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels, pour les idées, et les idées sont toujours motrices, il faut travailler ensemble et réfléchir. Donc c'est ça la tâche à laquelle, sans avoir d'agenda personnel ni de fébrilité, j'ai pas de plan de carrière à l'âge qui est le mien, mais simplement la volonté d'être utile, je veux participer à cette construction d'une nouvelle proposition de la droite républicaine et du centre.
Michel Barnier, permettez-nous de conclure cet échange sur une question plus personnelle. Votre parcours politique s'étend sur plus de 50 ans. Vous avez occupé de très hautes fonctions, tant au niveau national qu'au niveau européen. C'est une question évidemment difficile, mais si vous aviez à choisir, quelle serait la ou les figures qui, au long de votre parcours, vous ont le plus marqué par leur dimension d'homme ou de femme d'État ?
La personnalité qui a provoqué et justifié mon engagement politique, c'est le général de Gaulle. En ce qu'il était pas seulement un homme d'État, c'était le contraire d'un politicien. C'était un acteur de l'histoire et de la liberté française, et de la nation française, pas du nationalisme. De Gaulle n'a jamais été nationaliste. Il était national, hein, c'était, et en même temps très ouvert sur le monde. Il avait ce côté progressiste aussi. Et donc je reste très fier de m'être engagé pour lui. Et il n'est pas comparable à aucun autre. Mais après lui, il y a eu d'autres présidents, et j'ai parlé de Georges Pompidou. J'ai beaucoup d'admiration pour Simone Veil, beaucoup, pour le message qu'elle portait. Ça a été un grand privilège, un grand honneur pour moi d'avoir été modestement son collègue au gouvernement, quand M. Balladur a formé le gouvernement de 93, nous étions ministres ensemble. Et je n'oublie pas cette femme qui a été tellement courageuse et tellement belle dans son courage. Voilà, donc je peux trouver d'autres personnalités qui m'ont marqué, comme Nelson Mandela, par exemple, là aussi par son courage et sa détermination. Et puis, au-delà du courage qu'il a eu dans son combat contre l'apartheid, le courage qu'il a eu ensuite pour devenir, et en devenant le chef d'État de l'Afrique du Sud. Donc voilà, il y a beaucoup de personnalités qui m'ont marqué, qui m'ont encouragé à croire en la politique. La politique, c'est... L'autre jour, j'ai discuté avec des jeunes qui m'interrogeaient sur qu'est-ce que c'est que la politique. Je leur dis, la politique, vous avez des valeurs, vous devez avoir des valeurs, des convictions personnelles, en vous-même, vous les trouverez en vous-même, ou par de grands exemples, comme ceux que j'ai cités, il y en a d'autres. On vous confie un mandat, si vous êtes élu, j'ai eu cet honneur très tôt. Un mandat, c'est la capacité de faire des lois, des projets, des budgets, de faire des directives à Bruxelles. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça ? Des valeurs, des convictions, un budget, de l'argent public, et l'argent de tous les contribuables, pas seulement ceux qui votent pour vous. Vous devez faire quelque chose de très simple et de très difficile à la fois. Vous devez créer du progrès collectif. Vous devez créer du progrès dans votre commune, qu'elle ait 100 habitants ou qu'elle en ait 600 000, dans votre département, dans votre région, dans votre pays, la France, au niveau européen, on doit créer du progrès. Que la situation s'améliore, qu'à la fin de votre mandat, et un mandat a toujours une fin, vous puissiez vous dire en conscience, la situation que je laisse est meilleure que celle que j'ai trouvée. Voilà. C'est toujours ce que je me suis dit tout au long de mes étapes dans ma vie publique.
Nation, progrès, c'est donc sur ces concepts et ces valeurs que se termine notre entretien. Merci beaucoup Michel Barnier.
Merci de votre accueil et de votre attention.
Fin de cette discussion passionnante avec Michel Barnier. Jérémy, il est l'heure de parler de nos coups de cœur de la semaine. Et tu voulais évoquer un écrivain américain né à Harlem et mort à Saint-Paul-de-Vence.
Oui, mon cher Romain, je voulais parler aujourd'hui de James Baldwin, auquel Raoul Peck, donc le cinéaste haïtien, a consacré il y a quelques années un très beau documentaire, I Am Not Your Negro, qui revient sur la vie de James Baldwin, mais surtout qui utilise les mots de James Baldwin pour revenir sur la question raciale, sur la question de la ségrégation aux États-Unis. Et c'est un film documentaire absolument magnifique que Raoul Peck, qui est connu pour avoir notamment consacré de très beaux films à Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance au Congo, mais aussi film bouleversant sur le génocide au Rwanda, consacre à cet auteur qui est un petit peu oublié. C'était un auteur donc américain qui avait un lien très fort avec la France, puisque jeune homme, il avait fui la ségrégation aux États-Unis pour venir à Paris, où il avait fait une grande partie de sa carrière littéraire. Et finalement, il était reparti aux États-Unis pour s'engager dans le combat, un combat contre la ségrégation, contre les problèmes raciaux, où un certain nombre de ses amis étaient impliqués. Et ce documentaire nous permet notamment de redécouvrir et de découvrir un texte qui était jusqu'à présent méconnu, qui est un texte dans lequel James Baldwin rendait hommage à trois figures, Malcolm X, Martin Luther King et Medgar Evers, trois leaders du mouvement des droits civiques aux États-Unis, tous trois assassinés avant 40 ans, des hommes qui étaient des amis de Baldwin, et dans un texte jamais publié, James Baldwin leur rendait hommage. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce documentaire, c'est qu'on découvre l'érudition de Baldwin. On découvre ses qualités oratoires, puisque le texte qui est lu, qui est en arrière-fond, sont des extraits de ce texte que je viens de mentionner, qui sont lus par Samuel Lee Jackson. Mais il y a aussi des extraits d'une conférence, par exemple, qu'il donne en 1965 à Cambridge, mais aussi des extraits d'émissions de télévision dans lesquelles il apparaît, et où il décrit avec beaucoup de nuances, de subtilité et d'intelligence la question raciale, les tensions que cela soulève, mais aussi combien, par exemple, le cinéma hollywoodien a véhiculé un certain nombre de préjugés, a contribué à les nourrir dans la société américaine, mais aussi dans l'ensemble des sociétés, comment la publicité a aussi eu un rôle très très néfaste. Et James Baldwin a été le premier dans sa littérature et dans ses essais à mettre le doigt là-dessus. Donc c'est un documentaire passionnant parce qu'il évite deux écueils. D'abord, traite de cette question, il évite donc l'écueil de penser que tout serait réglé, qu'il y aurait plus de problèmes aujourd'hui, et les images de Ferguson en toile de fond, des images d'émeutes raciales récentes aux États-Unis nous rappellent que c'est un problème aujourd'hui présent, tant aux États-Unis qu'en Europe d'ailleurs, même s'il y a des différences historiques et culturelles très fortes. Mais il évite aussi le sentiment, ce documentaire, de culpabilité, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour culpabiliser, pour enfermer les blancs et les noirs dans une opposition stérile. Il amène plutôt, et c'est à mon avis c'était tout le génie de James Baldwin, à un sens de responsabilité. C'est-à-dire qu'il nous amène, c'est des images bouleversantes que l'on voit dans ce documentaire, des textes, des mots bouleversants, mais à nous dire comment on peut améliorer la situation, comment on peut éviter que les erreurs du passé, que les atrocités du passé se répètent à nouveau ou perdurent, se prolongent. Et donc c'est un documentaire magnifique de Raoul Peck que je conseille vivement, et ça permet de redécouvrir cette figure absolument géniale de la littérature afro-américaine, James Baldwin, qui s'était engagé sur la question raciale, mais aussi sur d'autres questions. Je rappellerai quand même que c'était un homme qui s'était aussi engagé contre la guerre au Vietnam, et puis aussi contre les discriminations à l'égard des homosexuels, lui qui était un écrivain homosexuel. Mon cher Romain, je crois que toi, tu voulais nous parler aujourd'hui d'une figure qui a été le dernier monarque français, le premier président de la République française, figure qui a longtemps été controversée, mais qu'on redécouvre peut-être un peu aujourd'hui, Napoléon III.
Et oui, il y a 150 ans, le 9 janvier 1873, mourait l'un des chefs d'État qui a régné le plus longtemps dans l'histoire de France, 22 ans, le plus long règne en tout cas depuis Louis XIV, un chef d'État au bilan considérable, à l'héritage immense, et pourtant, plus personne n'en parle. Très peu de noms de rues ou de places lui sont dédiés en France. Et même ses cendres demeurent en exil. C'est dire s'il a été blacklisté, voire cancellé. Donc bien sûr, on parle là de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, qui fait l'objet d'un remarquable ouvrage de Maxime Michelet, intitulé « Napoléon III, la France et nous », aux éditions Passé Composé. Cet ouvrage est très éclairant sur les raisons de cette contradiction inhérente à la figure de Napoléon III. C'est-à-dire à la fois une légende noire qui provoque aujourd'hui rejet et ou oubli, et d'autre part, une œuvre politique et sociale de toute première importance, et cet excellent essai synthétique, passionné, accessible, contribue à rappeler cette espèce de contradiction. L'ouvrage rappelle notamment qu'au lendemain de la chute de Napoléon III, Louis Pasteur, donc quand même pas n'importe qui, écrit dans une correspondance avec l'un des ministres, « L'empereur peut attendre avec confiance le jugement de la postérité, son règne restera comme l'un des plus glorieux de l'histoire. » Bon, alors là, il n'est pas certain que Pasteur ait vu juste en la matière pour la postérité. Celle-ci semble très injuste, en tout cas, du moins pour l'instant, avec Napoléon III. Alors bien sûr, Napoléon III a été mémoriellement flingué par la verve de Victor Hugo et son Napoléon le Petit, qui a créé la figure d'un Napoléon le Maudit, mais pas seulement. Il y a deux événements qui nuisent grandement à la perception de son œuvre politique. D'une part, le coup d'État du 2 décembre 1851, péché originel, qui met fin à la Seconde République, dont il fut, comme tu l'as rappelé, le premier président. Et puis, bien sûr, coup d'État qui va amener au Second Empire. Et puis, d'autre part, la défaite de Sedan lors de la guerre de 1870 contre l'Allemagne, qui va mener à l'abdication de Napoléon III, et qui, au-delà de son cas personnel, constitue une défaite militaire humiliante pour la France dans une guerre totalement inutile et absurde. Alors, Maxime Michelet raconte combien ces éléments sont quand même bien plus compliqués que ce que je viens de le dire et qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais il est vrai que pour tous ceux qui aiment voir l'histoire en noir et blanc, qui aiment juger de manière souvent moralisatrice et anachronique, Napoléon III, c'est le méchant presque parfait. Mais tout de même embêtant si on veut vraiment considérer son œuvre dans sa globalité. Une œuvre assez remarquable, et je vais pas tout dire, parce que il faudrait, je pense, une émission entière, tant le règne de Napoléon III fut riche en avancées pour la France. Mais en trois mots, c'est quand même lui qui fait rentrer la France dans la modernité économique et industrielle. Il était attiré par toutes les révolutions techniques de l'époque. Il a fait en sorte que la France prenne le train, sans jeu de mots, de la révolution industrielle, du chemin de fer, du progrès, et ce, il faut le rappeler, partout dans le pays. Il a mis en place toutes les conditions qui rendaient possible cette révolution industrielle, c'est d'ailleurs ça qu'on attend véritablement d'un État, c'est-à-dire une législation favorable aux créations d'entreprises. C'est lui qui permet la création des sociétés anonymes. Et c'est surtout lui qui permet une mobilisation des capitaux en créant des banques accessibles, l'épargne accessible à tout le monde. C'est d'ailleurs dans ces années que vont être créées les grandes banques que l'on connaît aujourd'hui. Il ouvre considérablement la France au libre-échange, contre l'avis du patronat de l'époque d'ailleurs, en mettant en place le fameux traité de libre-échange avec l'Angleterre. Donc c'était quand même assez courageux. C'est aussi un empereur social qui a énormément fait pour les droits des plus faibles, notamment pour les droits de la défense, mais également pour les droits sociaux. C'est sous son règne que le droit de grève est accordé, que le droit de coalition est de nouveau reconnu, qui était quand même prohibé depuis la Révolution française. Il consacre le caractère chômé du dimanche. Il abolit l'article du Code civil qui accordait davantage de valeur à la parole d'un patron qu'à celle de l'employé. Et puis bon, comme je l'ai dit, il a fait aussi beaucoup pour les prisonniers. Il crée la liberté provisoire. Il fait pour l'éducation. Il instaure l'enseignement secondaire à destination des jeunes filles, avec une gratuité scolaire largement étendue qu'il n'avait pas attendu Jules Ferry. Donc il a fait beaucoup de choses. Alors bien sûr, dans le cadre de nos discussions géopolitiques, sa politique étrangère est parfois plus inégale, avec par exemple une aventure assez ridicule pour la France au Mexique, dont on avait parlé dans notre épisode spécial Mexique, et puis bien sûr cette guerre stupide de 1870. Mais tout de même, même sur ce plan-là, Napoléon III, il va tout de même permettre de remettre la France au tout premier plan des puissances diplomatiques européennes, ce qui n'était plus le cas depuis le congrès de Vienne. Il joue un rôle absolument décisif dans l'unification italienne. Il stoppe l'expansionnisme russe lors de la guerre de Crimée en alliance avec le Royaume-Uni. Et puis plus globalement, il contribue à favoriser les aspirations des peuples pour les États-nations. Petite citation d'un président roumain il y a quelques années. Dans l'histoire des Roumains, l'empereur Napoléon III est l'homme providentiel du 19e siècle. Donc ça va au-delà de l'Italie. Et bien évidemment, pour terminer, s'il ne se limite pas à ça, son héritage culturel est considérable. La transformation radicale de Paris, c'est lui, alors bien sûr mené par ce génial exécutant que fut Haussmann, mais les grands travaux, les grands parcs, des buts de Chaumont, le parc Monceau et les bois de Boulogne et de Vincennes, la fin de l'insalubrité populaire, l'agrandissement de Paris avec l'annexion des communes voisines de Montmartre, de Belleville, de Vaugirard, et bien tout ça, c'est Napoléon III. Donc c'est une période très riche, très dense, orienté vers le progrès et la dignité de l'homme. Et à mon sens, alors tu vas penser que j'étais très peu objectif, mais il n'y a pas beaucoup de dirigeants, de chefs d'État dans l'histoire de France qui ont un tel bilan, hormis bien sûr son oncle Napoléon Bonaparte. Et donc cet excellent ouvrage de Michelet, Maxime Michelet, est une excellente défense du bilan de Napoléon III et un rappel de ses nombreuses réalisations à lire.
Romain, merci beaucoup de nous avoir permis de redécouvrir la figure de Napoléon III. James Baldwin, Napoléon III, je ne sais pas s'il y a un lien possible entre les deux, mais en tout cas, c'était une belle manière de conclure le très bel entretien que nous avions eu avec Michel Barnier. Merci mon cher Romain, à la semaine prochaine.
Merci Jérémy, à la semaine prochaine.